Plein Feu, une émission de Cato Bell, Vincent Delcor.
Bonjour à tous, on a le grand plaisir de se retrouver pour un nouveau numéro de Plein Feu. Chaque semaine, vous le savez, on prend le temps d'échanger longuement avec une personnalité du monde culturel, économique, politique, social, religieux ou du tissu associatif. Ce sera le cas aujourd'hui. On a le plaisir, l'honneur d'accueillir Quentin Ayoua. Bonjour.
Bonjour Vincent.
Vous êtes le secrétaire général de la Commission Justice et Paix, nouveau secrétaire général, puisque vous avez été nommé, vous êtes entré en fonction en tout cas en février 2024. Avant cela, vous avez étudié les sciences politiques, les études européennes, vous avez travaillé au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le monde des cabinets, mais aussi dans l'administration, dans le domaine de la culture. Pendant 2 ans, vous avez dirigé le département éducation d'entraide et fraternité.
Oui.
Et vous voilà donc à présent chez Justice et Paix. On va évidemment parler de vous. Hein. Plein Feu, c'est une émission où on prend le temps de faire connaissance de votre parcours, de vos convictions. Revenir aussi sur l'association que vous dirigez aujourd'hui et puis passer en vue un certain nombre de dossiers, de questions sur lesquelles on serait heureux de vous entendre. Quentin, vous êtes né il y a 44 ans à Etterbeek. Vous pouvez nous donner quelques mots sur peut-être votre enfance?
Oui, tout à fait. Donc je suis effectivement né à Etterbeek, un peu, je ne vais pas dire par accident, mais je suis tout de suite retourné dans le Hainaut, à Brugelette précisément. Je suis grandi dans une famille d'agriculteurs. Oui, voilà, une famille aimante, une famille qui m'a aussi orienté vers les études à Mons, au collège Saint-Stanislas, voilà. Et effectivement, après, mon parcours a été émaillé d'un peu de droit, de sciences politiques, d'études européennes, comme vous l'avez souligné, avec une ouverture aussi sur l'associatif, le mouvement de jeunesse dans mon enfance, des voyages de sensibilisation au sud aussi, un voyage assez interpellant en réto au Sénégal, donc première découverte avec le monde du développement. Voilà, puis les hasards de la vie qui me conduisent effectivement vers la politique.
On va y venir, mais, ouais. Mais juste avant, effectivement, le choix des études, c'est quelque chose qui était évident, facile pour vous? Quels étaient vos rêves peut-être au moment de choisir ces études de droit?
Alors, au moment de choisir ces études de droit, je voulais être notaire. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'était en tout cas mon projet. J'aimais bien l'accompagnement familial, en fait, de la dimension du notariat. Très vite, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas spécialement fait pour moi, et la science politique, l'actualité, les enjeux mondiaux étaient quelque chose qui m'interpellait évidemment beaucoup plus à ce moment-là. Et donc, de manière assez évidente, je me suis réorienté vers ces études. Oui, alors une famille aussi sensible aux enjeux de solidarité, donc je pense qu'il y avait aussi une affinité, une forme de filiation vers ces orientations de par mon parcours.
Vous évoquiez les mouvements de jeunesse aussi, ouais. ça vous a marqué?
Ça m'a marqué, oui. Oui, parce que j'ai eu la chance donc d'être animé, mais aussi d'être chef. Alors un peu pour tous ceux qui sont passés dans les mouvements de jeunesse, ça ouvre l'esprit à un âge peut-être où on doit se poser, prendre ses marques dans la société. Donc pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très enrichissant. Oui, j'en garde vraiment un excellent souvenir, un excellent souvenir et des amis aussi, hein, parce que ça compte aussi à ce moment-là. Donc, oui, effectivement.
Les études plutôt fêteurs, plutôt studieux.
Je dirais les deux. Oui, j'ai un peu traîné en cours de route, donc on pourrait mettre ça sur le coup du côté fêteur. Non, mais plus sérieusement. Oui, je pense que voilà, je n'étais pas non plus tout le temps dans mes livres. Il y avait cette curiosité de sortir un peu des livres et d'aller voir le concret. Donc des formations aussi, des formations au départ pour un voyage à la fin de mes études dans l'Himachal Pradesh, la communauté des Tibétains au pied de l'Himalaya, pour le compte d'une petite association française, la Maison des Himalayas, que je cite ici d'ailleurs. Oui, non, voilà, ça a un peu matiné tout mon parcours depuis l'adolescence jusqu'à l'entrée dans la vie adulte, la vie professionnelle.
La question internationale, hein. C'est le premier grand voyage que vous faites au sortir de vos études.
Ouais. C'est le premier grand voyage avec, oui, effectivement aussi donc en sciences politiques, un mémoire qui n'avait rien à voir, mais sur la politique européenne de sécurité et de défense qui a un écho particulier en ce moment. C'est clairement cet intérêt permanent, beaucoup de lectures aussi, et de belles rencontres aussi.
C'est quand même intéressant parce que la question de l'étranger, de l'international, on a parfois l'impression que notamment parmi les invités qu'on reçoit ici, il y a un peu deux mondes. Il y a ceux pour qui l'étranger et l'international, c'est quand même quelque chose de, de très distants auxquels on ne s'intéresse pas forcément. On voit chez les jeunes aussi ou chez les citoyens, à quelques mois des élections européennes, les enjeux internationaux ne sont pas forcément des enjeux sur lesquels la majorité des citoyens belges s'intéressent beaucoup. Et parallèlement, on a toute une série de personnes qu'on va retrouver notamment évidemment dans le monde associatif, dans le monde des ONG, qui ont cette fibre internationale, qui ont voyagé. Comment expliquez-vous le fait que vous vous êtes dit, ben oui, l'étranger c'est important, la solidarité aussi, comment est-ce qu'on y devient sensible?
Alors, moi j'ai eu un événement très particulier, c'est que j'ai été témoin d'une scène de violence policière à l'entrée de Matongué autour de mes 19 ans, sur des personnes afrodescendantes manifestement. Et ça a été une vraie gifle, je pense. Et par rapport à tout ce que je viens de vous exposer, tout ce que j'ai dit, ça a vraiment forgé ma conviction qu'il y avait un lien, en fait, entre ce qui se passait dans cette réalité sur ce trottoir à Bruxelles et le passé de ces personnes victimes, manifestement, de cette violence policière. Et donc, ça fait rejaillir toute une série de questions sur... finalement l'intégration de ces personnes dans la société, les capacités de prise de distance de cette police, de cette force de l'ordre qui est censée maintenir l'ordre de manière juste, qui là manifestement a fait un gros dérapage. Donc qu'est-ce qu'on propose à ces personnes qui nous rejoignent en cours de route dans un parcours de vie qui peut être parfois difficile? Et donc cet incident, vraiment par rapport à mes études en plus à ce moment-là, a été révélateur d'une soif de compréhension des enjeux extérieurs et contextuels, conjoncturels, qui ont pu, par exemple, et là de manière très pragmatique et très évidente sous mes yeux, se passer, en fait. Voilà. Je pense que c'est, si je dois vraiment remonter à cette forme de nécessité qui est née en moi, je garde ces images en tête, en fait, et je pense que c'était le début d'un cheminement qui m'amène peut-être aujourd'hui dans vos studios.
Oui, et le cheminement qui n'est pas seulement intellectuel, qui est aussi ancré dans l'expérience.
Hein. Oui, voilà. Alors ça reste effectivement un très mauvais souvenir. Et cette expérience, oui, là, était... Ouais, j'ai utilisé le mot gifle, je pense que c'est le mot. Quand je parle de point de départ aussi, c'est l'idée d'avoir voulu creuser après, d'essayer de comprendre, en fait, parce que ça se passe sous vos yeux, mais c'est une parenthèse dans votre vie. Parce qu'après, ben oui, voilà... On se frotte les yeux dans le quick voisin parce qu'on s'est pris une bombe lacrymo, donc pas moi, hein, mais les témoins de la scène. Et donc on est témoin de ça, d'un incident qui part de rien, qui grossit, qui finit par se dégonfler. Et puis la vie continue, le trottoir se dégage, la vie reprend ses droits, la ville réoccupe l'espace, en fait. Voilà, et finalement cet incident n'a pratiquement plus existé pour personne, mis à part pour les deux victimes sans doute. Et pour d'autres personnes qui s'en souviennent peut-être comme moi aujourd'hui.
Alors une autre question à laquelle beaucoup de gens s'intéressent peu et à laquelle vous vous intéressez plus que beaucoup, c'est la politique. Ouais. Hein, très tôt, après vos études, vous allez vous engager vous-même en politique.
Oui, tout à fait.
Vous allez travailler pour des cabinets ministériels. Vous allez...
parlementaire aussi, oui.
Voilà, aussi vous engager au niveau communal, mener une campagne même. Là aussi, et notamment après l'expérience dont vous venez de nous parler, certains se disent... ces politiques sont tous pourris, c'est pas à ce niveau-là que les choses peuvent bouger. Vous, c'est pas ce raisonnement-là que vous allez suivre.
C'est pas du tout ma conviction. Pour avoir côtoyé ces personnes, et j'ai vraiment rencontré de belles personnes, des personnes convaincues. Alors après, il y a des travers, des exagérations, et ça, je pense que c'est inhérent à l'être humain. Mais non, j'ai vraiment rencontré des personnes convaincues qui faisaient du travail de terrain, et le travail de terrain en politique. Je pense que le citoyen ne mesure pas assez la conviction avec laquelle ces personnes font ce travail de terrain, qui est parfois caricaturé. La caricature est parfois entretenue par les personnes elles-mêmes, il faut bien l'admettre. Mais cette volonté de tendre vers le bien commun, moi je l'ai vraiment senti en tout cas dans ce parcours de cette année comme assistant parlementaire, puis 5 années dans un cabinet ministériel. Ben, il en faut en fait, hein. Et donc l'argument qui voudrait nous amener à dire qu'ils sont tous pourris, qu'il n'y a rien qui va, que c'est pour se mettre de l'argent dans les poches. Moi, je ne l'ai pas du tout perçu comme ça, loin de là, au contraire.
Et vous évoquez même la question du bien commun. Vous pourriez dire effectivement que la politique telle que vous l'avez vécue, c'est cette volonté de co-construire le bien commun?
Je pense dès lors qu'on met... Alors, il y a des carrières professionnelles politiques complètes, mais dès lors qu'on met sa propre carrière professionnelle, entre parenthèses, pour se lancer en politique, voilà... Moi, je crois profondément en l'être humain, donc il y a certainement une part d'enrichissement personnel ou de capitalisation sur une certaine image, une certaine notoriété. Mais au-delà de ça, je pense que le moteur de sa personne, fondamentalement, c'est de tendre vers quelque chose de mieux, vers une société équilibrée, vers une société qui laisse la place à chacun, qui permet à chacun de s'exprimer. Ils en sont le propre relais. Donc oui, non, j'ai peut-être encore cette candeur à 44 ans d'y croire, mais effectivement, pour moi, je crois que c'est vraiment fondamental. Et pour l'avoir vu, j'en suis intimement convaincu. Mmh. Donc voilà, et ceux qui se poseraient des questions maintenant par rapport au scrutin du 8 juin, je pense que c'est vraiment essentiel, en tout cas, de s'intéresser, de comparer, de se faire sa propre idée et de pouvoir choisir le bon programme et finalement derrière le bon candidat qui pourra porter ce projet.
Vous allez travailler aussi au sein de l'association Entraide et Fraternité, en charge du département éducation. Oui. Vous pouvez nous parler un petit peu de vos responsabilités, peut-être de ce que vous avez accompli.
En termes de responsabilité, c'était quand même un grand département au sein d'Entraide et Fraternité, donc quand même une vingtaine de personnes, une vingtaine de collègues répartis dans ce qu'on appelait les régions, donc les provinces, qui effectuent aussi un travail important dans les écoles, donc la sensibilisation à ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. C'est tout le volet soutenu par la coopération belge au développement. Et puis un important volet d'éducation permanente, hein, c'est le fameux pouvoir juger agir du cardinal Cardane. Donc vraiment avec le public, la population, amenée à la sensibiliser, à développer en elle une forme de conscientisation pour pouvoir la mettre en action. Une fois de plus, on peut réutiliser le bien commun comme objectif final. Et c'est vraiment, moi j'ai vraiment eu le sentiment, alors c'est pas en termes d'accomplissement parce que c'est quelque chose qui existe depuis les années 20, mais de voir ce mécanisme à l'œuvre, de voir comment des volontaires pouvaient se mobiliser autour de ce voir, juger, agir, de ce continuum pédagogique finalement, c'est vraiment quelque chose de beau, qui est toujours d'actualité. Hein. Donc Mgr Cardin travaille avec des jeunes ouvriers dans les années 20, voilà, on est en 2024, pratiquement 100 ans après, et cette méthodologie fonctionne toujours, est toujours reconnue. Il y a toujours d'ailleurs un décret organique de la Fédération de Bruxelles qui soutient largement ce secteur. Voilà, c'était donc mobiliser ces équipes. Alors il y a Entraide et Fraternité, mais vous n'avez pas cité Action Vivre Ensemble, qui est la petite sœur d'Entraide et Fraternité et qui soutient, donc qui est vraiment le moteur de l'éducation permanente au sein du groupement, et qui déploie aussi des projets, des appels à projets pour soutenir des associations qui luttent contre la pauvreté en Belgique. Mmh. Voilà, donc c'est une centaine de projets par an. Et là aussi, il y a toute une dynamique avec ces commissions régionales. Donc, il y a des commissions de volontaires qui vont examiner les projets, rendre visite aux projets, émettre un petit rapport à soumettre au CA. CA qui décide à la fin de l'octroi d'un subside pour les associations. Et toute cette dynamique, toute cette émulation autour des projets était vraiment quelque chose d'assez remarquable. Je trouvais de voir encore que des personnes pouvaient se mobiliser si longtemps, se voir, discuter ensemble, surtout confronter leurs points de vue. C'était vraiment quelque chose d'assez... voilà, d'assez satisfaisant, en tout cas dans mon parcours, d'avoir pu, alors pas seul effectivement, parce que je pouvais vraiment compter sur une équipe formidable qui se déployait sur le terrain certes, mais qui coordonnait tous ces projets à l'intérieur d'Entraide et d'Action Vivre Ensemble. Voilà, de se dire, voilà, cette personne est en lien avec ce que j'ai dit précédemment, parvenait à se mobiliser avec motivation, avec cœur, avec envie, de rester dans la durée aussi. Voilà, donc un beau témoignage de ce qu'est l'associatif finalement, hein, des personnes volontaires qui ne sont pas exclusives. Hein. On a souvent la tentation en tant qu'association de se dire ce sont nos volontaires, mais non, ces personnes volontaires font leur marché et vont où leur cœur les porte en fait tout simplement. Donc c'est beau. Malheureusement, voilà, une grosse question aussi se pose, et je pense que c'est général à tout l'associatif, du rajeunissement du volontariat et du volontaire. Voilà, c'est une population au-delà de 60 ans en général. Même si des perspectives sur le recrutement de personnes plus jeunes étaient évidemment régulièrement observées. Mais voilà, sur mon passage CEF, c'était principalement ça. Oui, un grand motif de satisfaction d'avoir aussi pu, à un moment donné de mon parcours professionnel, remettre le pied dans ce secteur, alors que voilà, j'avais plutôt un passé politique et administratif, de pouvoir me retrouver vraiment les mains dans le cambouis, devoir monter des événements avec mes collègues, c'était vraiment quelque chose. Un grand motif de satisfaction surtout, et d'avoir pu aussi travailler avec des collègues motivés, investis. Ouais. Voilà, je pense que si on arrive là aussi, c'est parce qu'il y a un moteur interne qui fait que voilà, on pourrait très bien faire un 9-17 et gagner sa vie assez simplement. Mais là, non, il y a, voilà, on met du cœur à l'ouvrage, en fait.
Oui, c'est plus qu'un travail.
Oui, hein. C'est plus qu'un travail.
Et alors, plus qu'un travail, certainement aussi, depuis février de oui. cette année, vous êtes le secrétaire général de la Commission Justice et Paix, deux associations voisines, au sens très concret du terme, oui. puisque vous partagez les mêmes bâtiments. Mais au fond, pourquoi ce changement? Parce que deux ans, c'est pas si long, mais il y avait une opportunité qui s'ouvrait pour vous.
Donc, un prédécesseur au secrétariat général qui s'en va, et, voilà, pour une très bonne raison d'ailleurs. Et alors cette opportunité vraiment de pouvoir reprendre la tête d'un projet. Je travaillais avec la commission justice et paix chez Entre les Fraternités, donc je les connaissais un petit peu. Je prétendais pas les connaître très bien. Oui, alors un peu comme une forme d'évidence aussi. Aussi une ONG et une association d'éducation permanente. Une ONG donc quelque part aussi une thématique, hein, ce qu'on a appelé là longtemps la coopération au développement. Le voir juger agir de l'éducation permanente, le croisement en fait de ces deux thématiques, le travail avec des volontaires aussi, la commission justice et paix a aussi des commissions régionales. Voilà, là ça s'est un peu imposé comme une évidence à moi fin de l'année dernière. Donc oui, et puis le challenge de se remettre à réétudier ce qu'est une association, remettre la main dans certains décrets organiques pour comprendre un peu les mécanismes, se remettre au goût du jour même si les mécanismes restent les mêmes. Bah, quelque part avoir la certitude aussi qu'on a les codes pour comprendre l'association dans laquelle on arrive, et ça a été assez vite une évidence pour moi. Oui, et puis un objet social quand même un peu différent, donc une expertise liée à l'activisme minier, mais si on y vient.
On va y venir dans quelques instants. Juste après une petite pause, vous nous proposez comme choix musical Apesar de Voce, mais que je prononce sûrement très mal, de Chico Buarque. Apesar de Voce,
tout à fait. C'est un chanteur brésilien qui a écrit en fait, voilà, si vous parlez portugais et vous comprenez la chanson, il décrit la situation sur la dictature au Brésil, mais toujours avec cette touche d'espoir que demain sera mieux en fait. Et donc c'est une chanson qui m'a beaucoup inspiré. J'ai eu l'occasion de voyager au Brésil avec Entre des Fraternités, et c'est vrai que dans la situation ambiante par rapport à certains conflits internationaux, il y a cette touche d'espoir que finalement tout ça se terminera un jour et que demain sera mieux.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir? Quando o galo insistir em cantar, água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar, vendo o dia raiar, sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir, que esse dia há de vir, antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, outro dia você céu clarear. De repente, impunemente, como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá.
Nous sommes toujours dans plein feu aujourd'hui sur Quentin Aïwa, qui est le secrétaire général, le patron donc de la commission justice et paix depuis ce mois de février. Quentin, est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer, au fond, commission justice et paix, beaucoup de gens, oui, savent sans doute ce que c'est, ou ont déjà entendu, ou croient savoir ce que c'est. Votre rôle, votre but, c'est quoi? À quoi servez-vous, au fond?
Je pense que c'est important, et je l'ai fait avant aussi, de rappeler que Justice et Paix, c'est une ONG d'une part, donc c'est une reconnaissance spécifique dans le cadre de la coopération belge au développement, et par ailleurs une organisation d'éducation permanente. D'ailleurs, d'abord une association d'éducation permanente, on est reconnu depuis 1982 comme association d'éducation permanente, depuis 1997 seulement comme ONG. Et habituellement, que fait ce type d'association, c'est clairement sensibiliser et interpeller d'une part les citoyens, le public de manière la plus évidente, les responsables politiques, c'est tout le volet plaidoyer de nos actions, et les acteurs et les actrices de l'éducation, parce qu'on forme les enseignants également à toute une série de thématiques. Mmh. Alors sur quoi? Parce que c'est vraiment, c'est vrai que comme vous l'avez rappelé, ça a sans doute sonné dans la tête de beaucoup de monde. Voilà, on a clairement une expertise sur les questions de conflit, de démocratie et d'environnement. Là derrière, ça reste des grands concepts, ça peut être de la science politique, de la philosophie politique, mais notre action vraiment se concentre sur la promotion des droits humains et de la justice. Parce qu'on a vraiment peut-être une forme de conviction que ce sont des facteurs de paix. Et de développement durable.
Donc ça veut dire que les personnes qui travaillent chez vous, c'est plutôt des intellectuels, des chercheurs, ou plutôt des gens de terrain, ou plutôt des gens qui vont accompagner, former des plus jeunes ou des enseignants?
Alors il nous faut tout ça en fait, il nous faut vraiment tout ça. On n'est pas un centre d'expertise, c'est pas l'objectif, sinon on se revendiquerait comme tel. On est une association d'éducation permanente, donc on a cette nécessité, ce moteur qui nous fait avancer de vulgariser en fait des thématiques essentiel. Donc il nous faut une part de rigueur scientifique dans les recherches qu'on effectue, mais par ailleurs on doit avoir l'expertise sous la main de personnes qui sont capables de transformer un message qui peut parfois être technique et compliqué en un message de plaidoyer politique, et aussi dans un message de sensibilisation à l'égard de la société belge, du grand public belge, pour lui permettre vraiment à ce public de se développer un point de vue critique en lien avec sa réalité du quotidien, sinon on ne serait pas l'éducation permanente. Donc on peut parler de conflits internationaux, mais si on ne parlait que de ça, ça ne le ramènerait pas du tout à la réalité du citoyen. Et tout notre travail et tout l'effort qu'on a fait en éducation permanente, c'est de ramener ces enjeux plus globaux à l'échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de ses citoyens, tout simplement. Ouais.
Et alors la dimension plaidoyer politique que vous avez évoquée, là aussi peut-être la creuser un tout petit peu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va frapper aux portes des parlementaires, des ministres, pour leur dire pourquoi il faut absolument voter telle loi et pas celle-ci?
Oui, typiquement ça peut être ça. Donc là, on a évoqué avant le travail entre les fraternités. On a mené une campagne commune ici durant la campagne de Carême avec nos partenaires congolais, les partenaires congolais d'entraide et les nôtres. Et notre partenaire est venu principalement pour faire du plaidoyer politique. Ça veut dire que j'ai un collègue qui suit les enjeux, par exemple, du devoir de vigilance des entreprises belges à l'égard du minerai. Et donc, ça veut dire qu'on va frapper, qu'on prend des rendez-vous avec des cabinets ministériels, avec des partis politiques, avec des députés, membres des commissions, des commissions qui ont un intérêt à toutes ces questions, et qu'on va leur porter un message d'adopter, par exemple, cette directive sur le devoir de vigilance, la transposer en droit belge. Par exemple, sur le minerai, là, récemment, l'Union européenne a signé avec le Rwanda un protocole de coopération sur la chaîne de valeur, donc vraiment pour assurer une traçabilité du minerai produit par le Rwanda. Dans le contexte des Grands Lacs, ça pose beaucoup de questions parce que les minerais passent les frontières, et donc on voit quelque part légitimer un minerai qui serait peut-être extrait au Congo. Voilà, ça posait question et c'est là qu'on prend les partenaires avec nous parce que ces partenaires en fait vivent cette réalité sur le terrain. Ils viennent en Europe finalement pour porter un témoignage de première main, vraiment, qui n'est pas seulement le témoignage porté par une ONG ici en Belgique, mais qui est le témoignage de quelqu'un qui, sur place, développe des projets de sensibilisation aux droits humains, travaille pour l'accès à la terre, l'accès aux fonciers des personnes qui se seraient fait exproprier parce qu'elles sont exactement situées au-dessus d'un gisement d'or, de cobalt, de diamant hyper prolifique. Voilà, donc on a ce souci de faire croiser la petite histoire, le petit événement personnel et dramatique la plupart du temps sur le terrain, avec quelque part les grands enjeux des accords commerciaux internationaux qui alors arrivent jusque Bruxelles et qui prend très rapidement une dimension européenne et pas uniquement belge.
Et vous avez l'impression que ce travail porte du fruit, de sensibiliser les ministres, les députés, ça marche ou finalement ils vous écoutent gentiment et puis ils passent à autre chose?
Alors, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un accueil poli, ça c'est certain. Alors ça marche, oui, quand on voit par exemple l'accord UE-Mercosur dans ses dernières étapes, à quel point, voilà, on sent que cette évidence de l'adopter est quelque part un peu moins évident. Et si c'est le cas, c'est parce que la société civile s'en est mêlée, a dénoncé une série de travers. Je pense que la manifestation des agriculteurs, singulièrement sur cet accord UE-Mercosur récemment, a vraiment remis un focus singulier sur cette problématique, qui par ailleurs a été travaillée en amont par une série d'ONG qui se sont mobilisées, qui ont fait du plaidoyer. Mmh. Donc oui, moi j'y crois fondamentalement.
Alors comment faire justement pour que ça marche? Il faut se mettre ensemble? Il faut mobiliser les gens? Faire en sorte que les gens viennent aussi dans la rue? Ou simplement quelques rendez-vous dans un cabinet, ça peut suffire?
Alors non, c'est une convergence de mobilisation de beaucoup de monde. Je pense qu'on est toujours plus fort à travailler en coupole. Et il existe une série de coupoles, j'en prends qu'une seule, par exemple sur l'Afrique centrale, qui nous a concerné ici très récemment, c'est Eurac. Je ne saurais pas à vous dire il y a exactement combien d'ONG, mais voilà, c'est une coupole européenne, ça permet d'adopter une déclaration, par exemple, sur cet accord lié à la chaîne des valeurs entre l'Union européenne et le Rwanda. Qui prennent en compte l'addition d'une série de points de vue, d'une série d'expertises européennes en l'occurrence, en lien avec la région en plus. Et donc ça donne une caisse de résonance différente qu'un travail qu'on mènerait isolément sur une thématique. Alors il n'y a pas de petite thématique, il n'y a pas de thématique oubliée non plus et tout ont une valeur importante, mais c'est vrai que quand on met ensemble une série de capacités d'analyse et de plaidoyer, à ce moment-là on arrive évidemment à quelque chose de beaucoup plus efficace et beaucoup plus concret.
Double identité, éducation permanente, ONG, et puis alors quand même la dimension catholique, la Commission Justice et Paix est une association catholique, peut-être que vous pourriez un peu nous rappeler justement ce lien historique avec l'Église.
Mais donc c'est Vatican II, c'est la constitution pastorale Gaudium et Spes de Paul VI qui crée les commissions Justitia et Pax, qui sont qui ont été réabsorbés dans le dicaster pour le service du développement humain intégral. Voilà, ça c'est notre histoire. Les commissions Justice et Paix, vous en avez une par pays en Europe, il y en a une aussi par pays sur Terre, qui sont regroupées de manière régionale. Voilà, après, le lien est plus ou moins fort entre Rome et les commissions de justice et paix, aussi en fonction de la réalité des pays et puis de l'histoire et du temps qui passe. Nous, on a la chance d'avoir deux bailleurs de fonds principaux qui nous permettent d'avoir une certaine forme d'autonomie.
Donc ces deux bailleurs, c'est la DGD.
C'est la DGD, tout à fait.
Au niveau fédéral et puis la Fédération.
Et la Fédération Lille-Bruxelles par ailleurs. On a aussi des dons généreux d'une série de donateurs, évidemment, qui nous permettent de développer aussi des projets, de développer ce plaidoyer, de développer ces formations d'enseignants de manière un peu plus, fluide, j'ai envie de dire. Donc ce lien avec Rome, oui, alors un évêque référent, des contacts avec la conférence épiscopale régulier, une présence dans l'AG de certains évêques.
Mmh. Ici en Belgique, c'est le cas, c'est comme ça que ça se passe.
Tout à fait, oui, Monseigneur Delville, membre de notre Assemblée Générale, effectivement. Alors le lien...
Et donc ça veut dire aussi que vous avez été nommé il y a quelques semaines, vous avez été rencontrer les évêques peut-être pour vous présenter?
Oui, je pense que c'est une évidence aussi, c'est de pouvoir aller serrer des mains, dire qu'on existe, rappeler peut-être, même si je n'ai pas dû le faire beaucoup, mais qu'on a été fondé dans les années 60 par Rome et que quelque part, même si on a pris une forme d'autonomie, une autonomie d'action, une autonomie de choix d'action, on est toujours à disposition, donc... voilà, sur des formations comme comprendre les conflits internationaux, si à un moment donné on peut se mettre à disposition, je sais pas, d'agents pastoraux par exemple, on a une expertise et on est sollicitable, et je crois que c'est important de pouvoir le rappeler en début de prise de fonction, même si mon prédécesseur l'avait sans doute fait aussi.
Donc vous êtes au service de l'Église, est-ce que vous pourriez quand même dire les choses de cette façon?
On est en tout cas fondé par l'Église, effectivement.
Mais vous, et vous restez à sa disposition pour rendre des services peut-être?
Oui, c'est ça, clairement pour rendre des services, dans, comme je vous l'ai dit, dans les champs d'expertise qu'on a développés et dans les mécanismes aussi de, voilà, de compréhension de l'actualité internationale, de compréhension de ce qu'est un conflit, de ce qu'est l'impact de, l'extractivisme dans certaines régions, les low-tech en fait, comment consommer raisonnablement toute cette technologie qu'on a sous la main. Comment on tend au bien commun finalement? On part toujours de problématiques pour arriver aux alternatives. Voilà, en matière de paix et de sécurité par exemple, on va constater des conflits armés et sociaux. On va travailler aussi sur des enjeux mémoriaux liés à ça. Après un conflit, il faut pouvoir se réconcilier. Et l'alternative à la fin, ben, c'est clairement la prévention des conflits. Donc on a aussi ce travail en trois étapes qui est vraiment d'identifier des problématiques et de tendre vers des alternatives.
Est-ce que vous diriez que votre travail est aussi nourri par ces liens avec l'Église, par une certaine vision de l'Évangile, par des encycliques du pape? Est-ce que c'est des choses qui viennent nourrir votre approche?
Par exemple, l'encyclique Laudato Si a été clairement un moteur pour notre association. On a développé ce qu'on appelait un projet Maison Commune, qui était vraiment de pouvoir sensibiliser les chrétiens à la transition écologique. Et une fois de plus, un travail avec Entraide et Fraternité. Entraide et Fraternité se chargeant du contact avec le public, notre travail à nous était de faire du plaidoyer dans ce cadre de cette encyclique, de ce projet qu'on a appelé Maison Commune, qui a duré 2 ans et qui nous a vraiment permis d'aller inspiré par l'encyclique Laudato Si, sur le terrain, prendre notre bâton de pèlerin pour aller trouver le politique et lui expliquer notre vision du monde et ce qu'on entendait par le bien commun et comment y arriver.
Peut-être une question plus personnelle aussi, la foi chrétienne pour vous, Quentin Aïwa, ça représente quelque chose, ça vous parle?
Alors moi je me considère clairement comme un chrétien sociologique, je pense avoir été pratiquant, même si je déteste ce mot, jusqu'à mes 18-19 ans. Oui, alors je reste sensible à un message de la Bible, clairement.
Il y a des textes qui vous inspirent particulièrement?
Oui, il y a le psaume du berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Je trouve ce texte pour être une mini-Bible en soi, parce qu'il comprend tout, en fait. Il nous parle de nos doutes, de la justice, des difficultés, de l'accompagnement de Dieu. Oui, pour moi, c'est un texte auquel je pense souvent.
Mmh. Vous évoquiez aussi Laudato Si, le pape François, c'est quelqu'un qui vous inspire?
C'est clairement quelqu'un qui m'inspire, oui. Alors, sur le plan personnel, cette ouverture au monde, ces changements, je n'ai pas envie de dire de changements ponctuels parce qu'ils sont quand même fondamentaux, mais ces petites touches posées pour rester en lien avec son temps, rester un pape contemporain, c'est quelque chose qui, moi, me parle beaucoup.
Mmh. La dimension interreligieuse peut-être aussi, est-ce que vous sentez que c'est un enjeu pour vous, ou la place des religions dans les conflits, c'est quelque chose auquel
Alors,
vous
ça,
intéressez
évidemment,
sans doute aussi?
Beaucoup. Voilà, on travaille, comme je le disais tout à l'heure, dans la région des Grands Lacs et au Pérou, ça je ne l'ai pas dit. Dans la région des Grands Lacs, c'est clair que nous collaborons avec la CENCO, la Conférence Épiscopale Nationale du Congo. Mais de la même manière, on accueille ici en Belgique pour faire du plaidoyer l'Église du Christ au Congo, donc qui est le pendant protestant de la CENCO. Oui, et donc voilà, je ne sais pas si on peut parler d'écuménisme à ce stade-là, mais voilà, on parle à beaucoup de monde, sans exclusif.
Mmh. Les religions peuvent être motrices de la paix dans le monde?
Ah ben oui, je pense. Alors oui, motrices aussi de conflits certainement, mais pour avoir vu, alors dans ce court laps de temps de prise de fonction, ce dialogue entre protestants et catholiques, là en l'occurrence sur les thématiques de l'Est du Congo, voilà, je pense que ce sont des églises qui se sont mises du côté du peuple et qui, qui ont une forme de prise de distance à l'égard du monde civil, du monde politique, assez courageuse. Le cardinal Ambongo, qui était à la Cambre il y a 2 semaines, l'a encore bien rappelé, son positionnement par rapport au peuple congolais.
Quentin Aïwa, vous êtes le secrétaire général de la commission Justice et Paix. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de Plein Feu.
Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs jasmin. Lila, c'était nos divisions, nos soldats, pour changer tout ça, changer le monde.
Troisième et dernière partie de plein feu aujourd'hui sur Quentin Aïwa, qui est le secrétaire général de la commission Justice et Paix. Vous êtes en fonction depuis quelques semaines. Vous êtes à la tête d'une association qui a déjà une belle petite taille, hein, avec 12 personnes oui. sous votre direction. Ça doit être un boulot assez prenant, des journées assez intenses, surtout quand on commence.
Alors surtout quand on commence et surtout quand on entame une campagne avec présence de partenaires dans le pays, c'est effectivement assez prenant. Alors,
les Congolais, hein, on en parlait
oui,
juste
c'est
avant
ça. Donc, la pause. La CDJP, la Commission diocésaine Justice et Paix de Bukavu, donc le sud Kivu, en face de Goma sur le lac.
Donc vous commencez pas en période très calme.
Non, voilà, et puis il y a toujours le challenge de la prise de fonction, essayer d'être à l'aise avec un maximum de pans de travail de l'association, le fonctionnement des équipes, la prise de connaissance aussi des talents et des forces vives mm-hmm. qu'on a dans l'équipe. Ça c'est aussi un beau challenge. Bah oui, les journées sont pas courtes. Hein.
Ça, il faut bien... Mais votre rôle, c'est évidemment accompagner les équipes, mais ça va être aussi définir des priorités, des accents, établir un certain nombre de contacts, développer un réseau. Donc c'est des aspects assez larges. Veiller sans doute à la question du financement. Donc ça fait quand même une fonction multi.
Alors elle est multifactorielle, oui, effectivement. Donc la recherche de financement, là, vous pointez un élément essentiel. Hein. Donc on a effectivement des financements pérennes. Après, on peut toujours aller identifier un projet avec nos partenaires au Congo. Essayer d'aller chercher du financement, ça c'est un de mes prochains challenges dans les semaines qui viennent, c'est de pouvoir clairement, voilà, la sœur qui est venue nous rendre visite a clairement établi toute la difficulté qu'était la vie de ces femmes violées et de leurs enfants. Là je pense qu'on a un travail assez important de soutien parce qu'elle met en place tout un travail de terrain pour donner à ses enfants un père, parce qu'en droit congolais, tout enfant doit avoir un père à l'état civil. Pour que ces enfants soient intégrés à la cellule familiale existante, que ces mères qui portent un enfant qui n'est peut-être pas celui de leur mari, que sa mère puisse se réintégrer dans la société, être acceptée et pas rejetée. Donc là, il y a tout un travail d'accompagnement mené par notre partenaire, auquel on pourrait donner un sérieux coup de pouce d'ici en Belgique. Voilà, tout ça se construit. Le langage des bailleurs n'est pas un langage qui est celui de sortir un chèque et de le signer. Non, on doit, en termes de redevabilité, remplir une série de conditions. Ce qui est tout à fait légitime aussi en termes de redevabilité par rapport au fonds qui pourrait nous être confié.
Des bailleurs institutionnels ou privés ?
Bailleurs institutionnels, bailleurs privés. Les bailleurs institutionnels ont certes le mérite d'assurer un financement pérenne dans la durée sur certains gros financements. À côté de ça, développent des projets plus ponctuels. Donc il faut trouver le savant équilibre entre le langage institutionnel et puis aller trouver des bailleurs dont on ne sait pas ce qu'ils veulent en fait parfois, qui sont parfois très exigeants, parfois beaucoup moins. Et donc voilà, c'est un travail de prospection, de réseau, de rencontres, beaucoup. Ça s'entretient dans la durée aussi, et c'est ce que je m'attelle à faire pour le moment.
Donc ça veut dire que vos semaines durent un peu plus que 5 jours, que vos journées se terminent un peu plus tard que 17h sans doute.
C'est effectivement un peu la constante ces derniers temps, et c'est un sérieux changement aussi par rapport à ce qui prévalait dans mon quotidien précédemment.
Et encore un peu de temps pour d'autres choses. Il y a des choses qui vous détendent, des loisirs.
Il y a des enfants aussi, il y a une famille.
Trois enfants,
oui. 9 à 14 ans, effectivement. Des cours du soir en agriculture aussi, pour ma part. Un projet avec une de mes sœurs. En termes de continuité de l'exploitation familiale dont je parlais en début d'interview. Ce retour à la terre qui pour moi est important.
C'est
ce passage chez Entrée des Fraternités, cette accroche à l'agroécologie m'a remis quelque part le goût et l'intérêt pour la terre. Et c'est vrai que l'actualité récente et les manifestations qui ont émaillé Bruxelles ces dernières semaines viennent clairement en écho de cette démarche auprès de la FUGEA, qui est un syndicat agricole paysan, en fait, une agriculture paysanne, et qui nous met à disposition des formateurs, des professeurs qui ont une vision un peu alternative d'un modèle plus global, plus général de l'industrie agricole, avec cette sensibilité à produire différemment, à produire raisonné, produire bio dans certains cas.
Oui, peut-être votre regard justement sur cette crise des agriculteurs, à la fois les agriculteurs qui symbolisent dans un monde idéal ce lien avec la terre, avec le local, et qui dans les faits sont soumis eux-mêmes à un modèle auquel ils n'adhèrent peut-être pas forcément, mais dans lequel on a le sentiment qu'ils sont parfois un peu coincés eux-mêmes.
Complètement.
Est-ce qu'il y a des solutions? Comment on peut en sortir de ce système?
Moi, je pense qu'une des principales revendications, et sans me faire le porte-voix officiel quelconque personne derrière, c'est clairement d'avoir un revenu décent pour pouvoir vivre dignement, tout simplement. Et ça, je pense que ça peut être un combat universel, que ce soit en agriculture ou ailleurs. C'est aussi pouvoir permettre à ces personnes de rester dans leur champ, rester auprès de leurs animaux, et d'éviter de rester coincés des jours entiers dans la paperasserie qui est exigée à ces agriculteurs en Europe. Et ces agriculteurs font aussi le constat que certains biens importés en dehors de l'Europe sont produits dans des conditions qui ne sont pas du tout les mêmes et qui sont beaucoup plus légères. Et donc c'est ce deux poids deux mesures de dire, oui, si vous produisez en Europe, merci, vous conformez à un cahier des charges énorme. Par contre, ce qu'on va importer, là on va peut-être un peu fermer les yeux au nom d'accords internationaux qui prendraient le dessus et qui seraient beaucoup plus légitimes.
Ça vous va pas?
Ben évidemment que non. Non, et je le comprends tout à fait. Quelle injustice en fait, vraiment.
Intéressant, cet équilibre chez vous entre les pieds sur la terre, dans le concret, dans le réel, et puis en même temps cette volonté de réfléchir aux enjeux. C'est aussi au cœur de votre travail à la Commission Justice et Paix, puisque vous avez à la fois ce lien avec les acteurs, cette sensibilisation en Belgique et à l'étranger, mais aussi ce travail plus théorique d'écriture, notamment d'écriture d'analyse, d'études, qui occupe une partie importante de votre travail.
Alors c'est un axe essentiel de ce fameux décret organique sur l'éducation permanente que nous propose la Fédération en ligne Bruxelles, c'est de pouvoir consigner et de permettre aux citoyens et donc aux lecteurs de la Fédération en ligne Bruxelles de pouvoir développer un point de vue critique sur les enjeux de société. Tout ça, fatalement, doit être consigné quelque part, et l'outil principal pour nous, c'est ce qu'on appelle l'analyse. Alors, dans le jargon, c'est un texte de 8000 signes, je pense, mais qui permet vraiment aux citoyens de, à partir d'un constat, d'une réalité, et donc cette réalité peut être rencontrée par nos volontaires, de développer un point de vue critique suffisamment étayé, qui ne soit pas évidemment des banalités, sur un enjeu de société. Ça peut prendre la forme donc, d'une analyse, un texte court, d'une étude, un texte beaucoup plus long. La campagne qu'on a menée ici a d'ailleurs été menée à l'appui d'une étude qui s'appelle « La crise de la terre au sud qui voue », l'extractivisme minier en République démocratique du Congo entre espoir et exploitation. Voilà, là c'est vraiment un travail conséquent d'une collègue qui est allée sur place pour préparer la campagne, qui est allée visiter les trous miniers, qui est allée voir ses mamans twangueuses, donc ces femmes qui nettoient le minerai, qui a un peu vu tout le microcosme social avec ses beaux moments et surtout bon, ses travers. Et donc en termes de droits humains, d'exploitation, de violence sur ces carrés miniers, voilà, ça, je pense qu'elle n'en est pas revenue indemne. Par contre, elle a consigné tout ça dans cette étude et voilà, et cette étude est valorisée comme outil pour notre bailleur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc cet axe d'écriture et cet axe d'animation sur le terrain, une fois de plus, c'est la beauté du processus du voir juger agir de Joseph Cardane, c'est d'avoir vraiment pu mettre en pratique, de mettre en perspective, en fait, plutôt, une réalité au sud, donc une thématique qui a été appropriée par le voir, le juger, par quelque part la campagne qu'on a menée ici, et l'espoir de la mise en action, de l'agir de nos populations pour justement éviter de consommer trop de minerais, éviter d'acheter une voiture électrique. Alors oui, c'est l'avenir certes, mais dans une voiture électrique, ben, il y a du minerai en fait dans la batterie, et ce minerai, il n'est pas extrait de manière très jolie au sud. Donc voilà, ça permet de se poser les questions et d'envisager des alternatives. En fait.
Je m'arrête un instant là-dessus. Mm-hmm. Vous dites c'est l'avenir, mais en même temps aujourd'hui c'est problématique. Donc quoi, la voiture électrique, qu'est-ce qu'il faut en faire?
Très bonne question. Et là, j'en voudrais qu'à ceci, moi, j'en ai pas de réponse. Mm-hmm. Oui, alors est-ce que le pétrole est un mieux pour l'électrique? Je n'en sais rien. Maintenant, ce que je constate juste, c'est que la manière dont les composants sont extraits mérite clairement une amélioration et un retour du bénéfice de cette exploitation au peuple congolais, en l'occurrence, parce que là, on a parlé du Congo, mais au peuple et aux sociétés des pays dans lesquels ce minerai est extrait. Donc, oui, alors ça pourrait être un modèle alternatif positif, mais force est de constater qu'en l'état actuel des choses, il y a une marge de progression sur les conditions d'extraction et de redistribution de la richesse qui est colossale et qui n'est pas du tout atteint.
Non. Vous écrivez ces analyses, ces études, et puis alors évidemment l'enjeu c'est de les faire connaître. Hein,
c'est de les faire connaître, effectivement.
Comment est-ce qu'on fait concrètement les diffuser?
Alors il y a toute la logique de la diffusion sur nos réseaux sociaux par exemple, mais ça ne serait pas assez. Donc c'est ça le cercle virtueux en fait, hein, de l'animation et de l'écriture, c'est qu'une fois que cette pensée est consignée et est écrite, qu'elle a permis peut-être de développer une pensée critique chez nos citoyens, c'est de pouvoir se la réapproprier pour refaire des animations à l'appui de ces textes en fait. Et de cela va une forme d'émulation en fait, ça va susciter de nouvelles idées qui vont pouvoir réalimenter le point de vue critique qu'on entend développer en réécrivant peut-être une alternative ou une suite à cette étude. Et voilà, c'est là que le cercle virtueux se met en route et c'est quelque part notre moteur et c'est ce qui fait aussi à mon avis notre crédibilité jusqu'à présent.
Quentin Ayoua, on l'a dit, vous avez aussi été engagé très fortement à un moment, en tout cas en politique. Le travail que vous menez aujourd'hui est aussi inévitablement un travail politique engagé. Il y a une date importante pour la Belgique et pour l'Europe, c'est celle du 9 juin, une échéance avec un triple scrutin fédéral, régional, européen. Ouais. Cette date, elle vous inquiète? Vous l'attendez avec impatience? Qu'est-ce qu'elle vous inspire?
Alors, oui, je pense que c'est toujours des moments clés. Alors, l'inquiétude, elle est là et je pense que les sondages sont là pour nous rappeler qu'il y a certainement des motifs d'inquiétude. Voilà, des motifs d'intervention extérieure aussi. Je pense que la plupart des États qui organisent des élections pour le moment essaient de se prémunir d'influences extérieures ou de manipulations, par exemple des réseaux sociaux, de contre-vérités, des fake news, des complots. On développe aussi un module pour déconstruire les complots et les fake news. Donc oui, et puis cet enjeu, là vous avez cité le 8 juin, mais il y a l'enjeu du mois d'octobre aussi, qui est beaucoup plus proche des citoyens et des citoyennes.
Les élections
communales et provinciales, effectivement. Donc voilà, deux moments clés en Belgique, avec deux réalités politiques différentes, au nord et au sud du pays. Et donc voilà, je pense que comme tout citoyen, je reste avec beaucoup de points d'interrogation dans ma tête et voilà, je serais curieux de voir ce que sera le 10 juin et alors très vite les semaines et les mois après en termes de formation de gouvernement. Voilà, je reste aussi très interpellé par la polarisation du débat en fait, hein. Et donc c'est très souvent c'est noir ou blanc.
On peut en sortir, vous pensez?
Oui, je pense qu'il y a la nuance et certains apportent de la nuance dans le débat et je pense que c'est essentiel en tout cas. Alors si on n'a pas le goût à aller vers la politique, de se dire que ça existe. Et au-delà de ça, si on veut rester dans cette logique bipolaire, c'est en tout cas prendre connaissance et de choisir en connaissance de cause. Voilà. Alors ça peut paraître très intellectuel et je me rends compte que ça peut pas parler à tous les citoyens. Mais c'est là, je pense, alors que l'associatif prend le relais et que l'éducation permanente prend le relais pour pouvoir vraiment, je vais encore le redire une fois, développer un point de vue critique, une pensée critique qui permet alors de rentrer dans les caricatures et dans des dichotomies qui ne devraient pas en être en fait. Voilà.
Il y a aussi beaucoup de gens qui hésitent hein, à aller voter. On sait qu'en Belgique, le vote est obligatoire et pourtant, ces gens s'abstiendront quand même. Est-ce que vous avez un message peut-être à l'attention particulière de ces publics?
Alors, le message, il peut être très simple. Ça serait de dire aller voter, mais ça serait un peu court, effectivement. Je pense qu'on a quand même la chance d'avoir un système démocratique qui est peut-être perçu comme certes perfectible. Mais il a le mérite d'exister. Et donc, voilà, on peut se dire que si on ne va pas voter, que de toute façon, si on va voter, ça ne changera rien. Voilà, moi, je reste convaincu qu'un vote, c'est quelque chose de précieux et qu'un vote peut faire la différence. Et donc, à ces personnes, je leur dirais clairement, écoutez, allez voter. Voilà.
Très concrètement, les élections peuvent aussi avoir un impact sur le mode de fonctionnement, les modes de financement de la commission Justice et Paix. Et si oui, de quelle manière?
Alors, j'ai clairement évoqué que c'était du financement pluriannuel, hein, 4-5 ans, ça dépend hein, du bailleur. Alors après, c'est vrai qu'au niveau de la constitution d'un gouvernement, le gouvernement ben, signe un accord de gouvernement et que cet accord de gouvernement pourrait très bien réorienter certaines politiques, que ce soit le soutien à l'éducation permanente, que ce soit la coopération belge au développement. Hein, on a encore la chance en Belgique d'avoir un pays qui fonctionne, comme je le disais, sur un soutien pluriannuel. La plupart des pays d'Europe fonctionnent au projet, ce qui, du coup, en termes d'autonomie de l'associatif, parce qu'on parle de ça en fait, hein, c'est de devoir se conformer à un appel à projet hyper réduit dans le temps sur une thématique bien précise dans un pays d'intervention bien précis et qui permet pas à l'association d'avoir des certitudes en fait sur sa structure de fonctionnement et on rentre alors dans du réactif complet. Et voilà, ma crainte à moi, c'est qu'on dilue alors clairement des cadres stratégiques, des orientations stratégiques fixées et quelque part qu'on perde nos identités en suivant ce type de dynamique très ponctuelle.
Les menaces sont là et on sait, hein, on entend parfois aussi des politiques, parfois un peu critiques sur l'associatif, sur l'éducation permanente, à dire tout cet argent public qui est dépensé, qui n'est peut-être pas toujours si bien utilisé. Est-ce que ça vous fait réagir? De quelle façon pourriez-vous dire aujourd'hui, bah oui, l'éducation permanente et notre travail, c'est absolument indispensable?
Alors, oui, ça me fait clairement hurler. Je pense que si la société belge, qui est quand même une société pilarisée, qui a dû, pendant pratiquement 200 ans maintenant, a pu se construire sur la négociation, sur des débats parfois houleux. Hein. On peut prendre des vieux débats, comme le pacte scolaire, par exemple. Mais ma conviction à moi, c'est que par l'éducation permanente, on a réussi à garder des citoyens attentifs et qu'on a ramené systématiquement au centre du débat une forme de conciliation, une forme de concertation. Et si on parvient encore, malgré nos différences, à se parler aujourd'hui, voilà, je pense, et dans une société pilarisée singulièrement, je pense clairement que c'est grâce à ce type d'associatif qui, à un moment donné, a pu prendre... prendre des créneaux de débats politiques, de conflits politiques et en faire quelque chose, de le faire rejaillir différemment dans la société que ce que ça n'a pu être dans les assemblées parlementaires, par exemple. Parce que ça donne une caisse de résonance différente et que ça a permis de nourrir, alors ça peut-être rejoint la mission de plaidoyer, de nourrir le politique du ressenti de la population.
Et peut-être de toucher aussi des citoyens qui ne s'inscriraient jamais dans un parti politique.
Exactement.
Quentin Ayoua, vous êtes donc le nouveau secrétaire général de la commission Justice et Paix. On vous souhaite beaucoup de bonheur.
Merci beaucoup.
Et de succès dans cette fonction. N'hésitez pas à passer nous revoir, on sera toujours heureux de vous accueillir.
Je répondrai volontiers à une de vos prochaines invitations.
Et vous, chers auditeurs, merci d'avoir été à nouveau à nos côtés. Vous pourrez naturellement retrouver cet entretien en podcast sur katobel.be. À très bientôt.